Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le manuscrit inachevé et plus de 30 autres romans de Franck Tillier.
Franck, je voulais vous demander d'où sort tout ce sang.
Ah, vaste question.
J'ai une certaine fascination attirance depuis que je suis ado pour les histoires qui font peur, qui font flipper. Des histoires policières de terreur, d'horreur. Là où mes copains et mes amis sortaient en boîte quand ils étaient plus jeunes, moi je m'installais chez moi devant des films d'horreur et je regardais ça. Toute la nuit. J'adorais vraiment me faire peur, quoi, c'est le mot, c'est-à-dire d'avoir cette espèce d'attrait-répulsion pour ce genre-là, pour le genre du frisson, le genre du suspense, du policier et de l'horreur. Je pense que c'est pour cette raison que je me suis mis à écrire. Alors après, l'explication profonde et psychanalytique du sujet, ça je l'ai pas, je pense qu'il faut que ça reste un peu secret, parce que peut-être que si je me faisais soigner un jour, je ne pourrais plus écrire. Après, est-ce qu'on a la tête de l'emploi? Non. Est-ce que c'est le tueur en série à la tête de ses actes? Pas forcément. Et vous savez, il y a le médecin légiste qui tous les jours va faire ses autopsies, mais on se dit, mais ce type-là, comment il peut faire un métier horrible et côtoyer la mort en permanence? Mais quand on discute avec eux, c'est un médecin avant tout qui essaye de comprendre, d'accéder à la vérité. Je pense que j'ai un peu cet aspect-là, cette volonté-là, c'est-à-dire d'être assez distant finalement des sujets que je traite, d'être très différent, mais de vouloir retransmettre une certaine forme de vérité sur, sur le monde dans lequel on vit. Quand on fait la somme des personnes, oui, que j'ai tuées dans mes livres, on doit atteindre plusieurs centaines, voire milliers, parce que des fois, je balance un petit virus et ça va très très vite.
Un des grands avantages qu'on a quand on est romancier, c'est qu'on peut tuer toutes les personnes qu'on veut sans être ennuyé, même celles qu'on n'aime pas finalement. Donc ça, c'est un des grands luxes, notre métier.
Ça vous sert un peu de défouloir, comme dans Le Magnifique.
Oui. Oui, non mais...
Vous tuez le plombier, quoi, de temps en temps, quoi.
Oui. D'ailleurs, il faut faire attention aux descriptions qu'on fait quand on décrit les personnages, que les gens qui sont vraiment visés ne se reconnaissent pas. Mais il y a de tout ça dans l'écriture. Il y a effectivement l'aspect défouloir, l'aspect de... très psychologique, de dire voilà, finalement psychanalytique, c'est-à-dire de chasser ce qu'on a en tête, les choses plus ou moins noires qu'on a tous en tête en tant qu'êtres humains. Et l'écriture, c'est un moyen vraiment de les exorciser, comme le sont les rêves, comme peut l'être le dessin, la peinture. Enfin, il y a toujours cette notion dans l'art, de manière générale, du rapport de l'artiste au monde qui l'entoure, à la folie, où globalement les œuvres sont quand même assez les miroirs intérieurs de ce qu'on peut avoir au fond de sa tête. Donc il y a un mélange de ça, mais il y a pas que ça. Il y a évidemment, c'est aussi un métier d'écrire des histoires, de penser en permanence à son lecteur, de se dire à tel moment de l'histoire, qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il attend une révélation? Est-ce qu'il attend que ça s'accélère? Est-ce qu'il a besoin de respirer un peu? Donc il y a aussi vraiment cette démarche de très rationnelle dans l'écriture.
C'est la même démarche qu'un tueur en série.
Oui.
Est-ce que vous avez vous aussi une paterne?
Oui, il y a effectivement je pense, une espèce de mode opératoire dans l'écriture de ces livres-là, qui ont effectivement un rapport très très fort avec le meurtrier, le chemin que va suivre un meurtrier de son enfance au moment où il tue.
Et vous avez l'esprit tordu des tueurs en série?
J'ai un cerveau, on va dire, reptilien assez développé. Il y a ce besoin d'analyser, d'aller dans la tête de ces victimes. Mes victimes sont les lecteurs, finalement, si on veut faire le rapprochement jusqu'au tueur en série, et d'essayer d'anticiper ce qu'ils vont penser, de se dire ils vont enquêter sur ce qu'ils sont en train de lire, donc je dois essayer de les tromper en permanence. Donc il y a un aspect un peu aussi, finalement, allez, j'ose le mot, perversion de l'auteur par rapport à son
lecteur où bah oui, on joue avec lui en fait, un peu comme un assassin va jouer avec ses victimes, mais ça fait partie, c'est ce qu'ils aiment. Mon esprit, ça ressemble un peu à une montre complètement démontée avant que je commence à écrire le livre. Il y a des engrenages partout, des ressorts, c'est un vaste puzzle et je me dis, voilà, tout est là, toutes les pièces sont là et maintenant il faut que je réussisse à assembler cet ensemble pour avoir une montre qui va donner l'heure exacte. Parce que vous pouvez écrire un roman qui fait 600 pages, d'avoir 580 pages parfaites, vous avez la montre qui est construite, mais malheureusement la montre ne donne pas l'heure. Et les 20 dernières pages, ça retombe parce que voilà, l'auteur n'a pas réussi à tout assembler pour que ce soit parfait. Et malheureusement, les lecteurs qui sont très exigeants dans ce genre-là ne vont retenir que la fin, évidemment. Ils vont dire, voilà, le roman était très bien, mais fin pourrie, fin pas à la hauteur. Donc ils vont être déçus et c'est très important de ne pas les décevoir jusqu'au bout. C'est très important de ne pas les décevoir jusqu'au bout.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'un écrivain comme vous, un horloger, nous laisse un manuscrit inachevé ?
Le roman inachevé, je peux donner... c'est juste au début du livre. Il y a un fils qui trouve le roman de son père, qui est un grand auteur de thriller qui est décédé. Il trouve le roman dans un grenier. Il a écrit toute l'histoire, mais il manque les 10 dernières pages. Donc, le roman est inachevé. Et donc, c'est le fils... Donc, le livre que lit le lecteur, c'est le livre trouvé... Mais le fils dit, voilà, c'est moi qui ai écrit la fin, puisque mon père n'avait pas... Et donc la fin n'est pas celle du père, parce qu'elle n'existe pas. C'est le roman dans le roman, l'histoire dans l'histoire, de se dire, est-ce que quand je lis une histoire dans un roman, est-ce que l'histoire, finalement, est-ce que les personnages existent ? Est-ce que cette histoire existe ? Est-ce qu'elle existe tant que je ne l'ai pas lue ? De savoir si on est entre fiction et réalité. Moi, j'aime bien jouer avec ces frontières-là. J'ai des livres qui parlent des rêves et de l'éveil où on ne sait jamais trop. Voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant. Où le lecteur, finalement, il est toujours en train de se demander mais est-ce qu'il me raconte, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est de la fiction ? Est-ce que moi-même, je suis en train de... Oui, voilà, on ne sait plus trop. Et c'est ça qui est intéressant. C'est, au-delà de l'histoire, il y a toute cette ambiance qui se dégage du livre. C'est vrai qu'il y a des moments où on est complètement perdu de se dire c'est tellement complexe, même pour nous. De se dire, mais est-ce que je suis en train d'écrire là ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est bien cohérent ? Et finalement, on relit, on dit, bah oui, ça marche. Et puis après, on doute le coup d'après parce qu'on se dit, mais... Voilà, donc il y a ça. Et j'aime ça, justement, de me dire, si moi-même, je me perds un peu dans mon récit, c'est que c'est bon, c'est que c'est compliqué. Et c'est ce à quoi je m'attends de ma propre écriture, en fait.
Quel est le premier élément qui tombe sur la table ?
Vous voyez un cadavre, tout d'un coup. Oui. Vous fermez les yeux, vous voyez un cadavre. Vous dites, celui-là, il me plaît.
Ouais, il est pas mal, il est bien. Alors, trouver l'idée, oui, c'est toujours... pour moi, c'est la partie la plus difficile, vraiment, dans l'écriture, de dire comment, qu'est-ce qui va se passer dans mon livre, qu'est-ce que je vais raconter, finalement, sur quel sujet. Alors, effectivement, ça peut démarrer sur un truc, une espèce de flash, où j'imagine un truc, je me dis, mais ça, c'est vraiment une bonne idée. Mais ça vient, la plupart du temps, ça vient quand même de la vie courante, quoi. C'est-à-dire que quand je suis en recherche d'idées, je vais regarder tout ce qui m'entoure. Dans le métro à Paris, je vais voir quelqu'un qui va faire telle chose, je vais dire, ah, mais tiens, ça peut... Vraiment, on devient une espèce d'éponge qui absorbe tout ce qui nous entoure, et où tout ce qui nous entoure peut devenir propice à une histoire. Après, je vais lire beaucoup dans ces périodes-là, je vais regarder beaucoup de reportages en rapport avec... mon univers qui est celui voilà du polar un peu scientifique aussi puis un jour et voilà il y a le déclic qui apparaît donc c'est toujours difficile, ça peut être un paysage, ça peut être une situation, ça peut être un personnage aussi. Un jour en lisant une revue je découvre qu'il existe une amnésie dite du poisson rouge, c'est-à-dire où on oublie systématiquement ce qu'on vient de faire. Je trouvais ça tellement extraordinaire et romanesque que je me suis dit voilà, le personnage principal du roman ça sera ça et maintenant il faut que j'invente l'histoire. Moi, je passe un an à écrire un livre. On me dit souvent, mais lequel tu préfères de tes livres ? Je me dis, mais tous, parce que c'est un an de ma vie que j'ai passé à écrire. Et si à la fin, moi-même, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai écrit, en me disant, mais celui-là, je ne le sens pas, ben, à la rigueur, je le mettrais presque à la poubelle, parce que si moi-même, je ne le trouve pas bien, je ne peux pas le donner au lecteur.
Le but ultime de l'enquête, c'est jamais l'enquête.
Non. Alors moi, je dirais que c'est plus de comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain de manière générale, quand il se met à mal fonctionner, et donc plus particulièrement comme on est dans du polar, les cerveaux qui se mettent à disjoncter et qui rendent des personnes criminelles. Et c'est ça qu'on essaye plus ou moins d'expliquer, pas toujours avec des tueurs en série, mais en tout cas c'est cette bascule entre la normalité en deux mots et l'anormalité en un seul mot. Et en fait c'est une quête sans fin, parce que C'est difficile d'avoir la réponse à ça. Le mal, de manière générale, d'où ça vient, est-ce que ça vient de l'éducation, est-ce que ça vient, parfois vous avez des éducations fracturées, est-ce que c'est génétique, voilà, donc c'est finalement, ça tourne autour de ça, même si les histoires sont très différentes, avec des, à chaque fois des univers différents, bah, quand on arrive à attraper le grand méchant de la fin, puisqu'il y a une enquête policière, et le but c'est de l'attraper, de comprendre pourquoi il fait ça, bon, on en est un peu dans ce domaine-là, avec quand même une volonté aujourd'hui d'apporter quelque chose de plus, ça c'est aussi avec l'expérience, sur le monde et sur l'humanité, c'est-à-dire de, je prends toujours des sujets qui ont existé par le passé, pas forcément lointains, par les dictatures, pourquoi des, voilà ce qui s'est passé pendant les dictatures, ce qui s'est passé dans tel pays à tel moment, pendant les programmes bactériologiques, des gens qui ont été capables de faire ça, des êtres humains, et en disant finalement, aujourd'hui on n'est pas épargné de ça, c'est-à-dire que ça peut... C'est pas si loin que ça. C'est... Et donc, dire aux gens qui lisent ces livres, ben, restez quand même vigilants de ce qui peut se passer autour de vous. Si on décrivait la réalité telle qu'elle, avec toute sa cruauté dans nos livres, les gens ne les liraient plus. Les attentats, les enlèvements, les meurtres, etc. C'est quelque chose d'horrible, en fait. Et les gens ne veulent pas être confrontés à ça. Dans une fiction, ça arrive que j'aille avec des policiers, je vois des photos de scènes de crime, mais rien que le fait de les voir en vrai, les photos, c'est même pas la scène de crime, c'est la photo de la scène de crime. C'est très différent de la voir en vrai que de la voir dans une série. Et la voir en vrai, vous dites, mais ça existait, il y a quelqu'un qui a été capable de faire ça. Et si on met ça dans un livre, les gens vont ressentir un malaise qui va rendre la lecture désagréable. Donc finalement, on décrit des choses horrible, mais il y a quelque chose de fictif dans cette horreur, c'est-à-dire finalement il y a une telle exagération avec des tueurs très intelligents qui sont capables de déjouer les pièges des policiers, etc. Ben, finalement le lecteur se dit, on se détache un peu de la réalité justement par cette extravagance, et je trouve que c'est extrêmement important parce qu'il y a des sujets aujourd'hui qui sont beaucoup trop proches de la réalité pour que qui font trop peur aux gens de manière réelle, quoi. Et on a besoin, quand on lit un livre, de se couper du monde qui nous entoure. Se couper du monde qui nous entoure. Ça rassure les gens finalement de voir dans les livres qu'il peut se passer des choses horribles alors qu'eux-mêmes sont en sécurité en train de lire le livre. C'est-à-dire que c'est une sorte de peur sécurisante quelque part parce qu'on est chez soi dans son canapé, on lit le livre, on a très peur mais on sait que ça ne peut pas nous arriver parce qu'on est dans un environnement sécurisé, et cette espèce de peur par procuration, les gens adorent ça. Finalement, quand on lit un livre, il y a quelque chose d'un peu cathartique parce qu'on se dit, bon, ma situation n'est peut-être pas terrible, mais quand je vois ce qui arrive au personnage, finalement, je me rassure et je me dis, je suis pas si mal loti que ça, je suis plutôt bien. Bon, il y a des sujets où moi-même je suis plus ou moins sensible à ça, où je sais que ça peut heurter vraiment très fort les gens, parce que ça a trop rapport avec la réalité, justement. Tout ce qui est affaire d'un peu pédophilie, enfin, qui touche les jeunes, tout ça. Après, on peut aller très très loin, parce que c'est ce qui fait qu'un sujet est bon. C'est-à-dire que moi-même, quand je prends le sujet du sang, par exemple, qui a été le sujet d'un de mes romans.
C'est Charcot, c'est ça?
Oui, c'est Charcot. Vous creusez le sang, puis vous vous rendez compte qu'il y a des gens, un jour, qui savaient qu'ils avaient du sang contaminé entre les mains, mais qui s'en servaient quand même sur des patients qui étaient malades, parce qu'ils se disent, finalement, ils sont malades, donc ils ne seront pas plus malades. Il y a ça, il y a toute l'industrie pharmaceutique. Vous vous rendez compte que dans vos recherches, qu'il y a des choses horribles qui se passent là-dessus, c'est la réalité. Mais en même temps, vous dites, mais... c'est bien que je puisse trouver ça. Donc en fait, l'horreur de l'humanité, le romancier trouve une certaine forme de satisfaction en disant, mais ça c'est bien parce que ça va me donner la matière. Alors c'est horrible de dire c'est bien, mais c'est bien, c'est comme le photographe de guerre qui va à un moment donné pouvoir prendre une photo d'un acte horrible de quelqu'un qui est blessé, qui va dire, il faut que je trouve la meilleure lumière, le meilleur cadrage pour faire cette photo à ce moment-là, pour que les gens puissent voir ça.
Votre premier lecteur, c'est qui?
C'est ma femme qui le lit. J'aime bien lui donner quand je suis à peu près à la moitié, pour dire, enfin même pas la moitié, avant premier tiers, on dit, est-ce que t'accroches, voilà, est-ce que ça fonctionne, parce qu'on doute quand même toujours là-dessus. Est-ce que ça fonctionne, parce qu'on doute quand même toujours là-dessus. J'aimerais bien écrire une grande histoire d'amour. Moi, les histoires d'amour impossibles, ça me fascine. Les personnes qui sont faites pour s'aimer. Mais le problème, c'est que j'ai un mort tout de suite, quoi. Je me dis, il faut qu'il y a... En réfléchissant, je me dis, peux pas ne pas y avoir un mort, ça marchera pas. Et donc voilà, je ressombre toujours dans ça.
Vous imaginez un peu mon cerveau.
Non, je veux pas.
Non, il vaut mieux pas.
Non, je refuse.
Ça bouillonne.
Je refuse de rentrer là-dedans. C'est beaucoup trop compliqué pour moi.
Dans ces films que vous regardiez enfant, enfin enfant, jeune ado plutôt, je dirais, il y en a un particulièrement qui vous a marqué ?
L'Exorciste. Il m'a vraiment traumatisé parce que j'avais peur d'aller me coucher, mais ça a duré des années. Hein. Je pense que ça a duré 2-3 ans où j'avais peur d'aller me coucher, où j'avais peur de... J'avais une chambre avec un Velux qui donnait sur la nuit, quoi. Et je me couchais pour pas regarder. Enfin, c'était horrible. Donc, il y a vraiment cette notion de traumatisme qui peut aller, je pense, chez certains jeunes assez loin. Il y avait vraiment, c'était plus du tout du plaisir à ce moment-là. Et encore, il me fait le frisson aujourd'hui. Mais c'est peut-être justement ce qui a été aussi, qui sait, un déclencheur de tout ça. Il y a tout un, c'est inexplicable, mais je pense que ça a joué un peu. Le premier livre est sorti pour expulser tout ça, et puis j'ai aimé ça, j'ai pris du plaisir à torturer mes lecteurs. Je ne suis pas un tueur en série, je le répète, je ne torture pas les animaux, mais les lecteurs. Et voilà, et puis les gens adorent ça, donc j'ai continué.
Et vous prenez du plaisir.
Eh oui, mais c'est important, et pour moi c'est la clé aussi, c'est la clé de l'écriture, c'est de prendre du plaisir. Le jour où il n'y aura plus cette flamme et... ce plaisir, je me poserai des questions.
Merci Franck.
Merci, c'est un plaisir.
C'était le manuscrit inachevé et plus de 30 autres romans de Franck Tillier.
Eh bien,
merci,
c'était bien, on a fait le tour.
Aux éditions Fleuve Noir. Un podcast du Poste Général. Mmh.